marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire. Nous sommes à Paris, dans les années 30. Deux jeunes femmes, très éduquées et très élégantes, se font remarquer par leur comportement osé. Elles sont sœurs et elles écrivent dans des revues littéraires ou engagées pour la défense des ouvriers et pour l'émancipation des peuples colonisés. Elles fréquentent la crème des intellectuels de couleur qui se pressent dans leur maison à Clamart, aux portes de la capitale française. Tous se donnent rendez-vous dans le salon des sœurs Nardal. Ils sont antillais, haïtiens, américains, sénégalais et constituent un cercle d'amis prometteurs car ils vont changer la face du monde. Ils s'appellent Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor ou Léon Gontran Damas et ils donneront naissance au fameux concept de la négritude. Mais ce que l'histoire a oublié d'écrire, c'est le rôle primordial et pionnier de nos deux jeunes antillaises, Paulette et Jeanne Nardal, dans l'éveil de la conscience de race.
Nous avions fondé un journal, La Dépêche africaine, dans lequel nous mettions en avant ces productions noires qui nous faisaient vibrer et que le public acclamait. On ne se privait pas non plus de critiquer la littérature exotisante, alors à la mode, et qui nous exaspérait.
J'ai lu le dernier numéro de La Dépêche africaine. D'habitude, je n'aime pas sa ligne éditoriale. Quelle idée périmée, les bienfaits de la colonisation. Au contraire, nous devons lutter pour notre indépendance.
On lutte aussi pour que les Noirs colonisés soient fiers d'eux-mêmes et reconnus égaux aux Blancs.
Mais justement, votre article sur l'internationalisme noir m'a fasciné.
Venez poursuivre cette conversation chez nous jeudi prochain. Nous recevons au 7 rue Hébert à Clamart.
Tu n'aurais pas dû l'inviter. Je suis sûre qu'il n'a jamais lu mes articles. C'était un prétexte pour me courtiser. J'avais tort. Cet étudiant, comme tant d'autres que nous rencontrions, était passionné par les idées nouvelles que nous diffusions. Inspiré par les panafricanistes américains, notamment Marcus Garvey. Dorénavant, il y aurait quelque fierté à être noir, à se retourner vers l'Afrique, berceau des Noirs, à se souvenir d'une commune origine. Beaucoup d'étudiants africains, antillais ou afro-américains passaient par l'appartement de Clamart. Fidèles à la tradition familiale, nous recevions beaucoup. Le salon littéraire des sœurs Nardal. C'est ainsi que Senghor désignait nos dîners et nos discussions enflammées. C'est sans doute chez nous que le mouvement de la négritude a pris naissance. Car ensemble, nous y avons appris à être fiers de notre héritage culturel. Ensemble, on regardait ailleurs. L'Occident, la France n'étaient plus nos seules références.
Mise en onde par Michael Goncalves, la bande dessinée Les Sœurs Nardal, publiée dans le numéro 2 de la revue La Déferlante, une toute nouvelle revue des révolutions féministes. Et cette bande dessinée a été écrite par Léa Mormin-Chauvac, donc c'est le tout premier scénario. Bravo Léa.
Merci.
Et bienvenue dans la marche du monde.
Merci.
Vous avez voulu sensibiliser les lecteurs et les lectrices de La Déferlante à la déferlante de la négritude.
J'ai voulu rappeler l'existence et le rôle de ces sœurs, pas seulement Paulette et Jeanne, il y avait aussi André, même si la BD se concentre effectivement sur Paulette et Jeanne Nardal.
Vous avez également voulu partager, si j'ose dire, votre propre émotion de jeune femme antillaise qui ne connaissait peut-être pas très bien Jeanne et Paulette Nardal.
Oui, c'est vrai que ça a été un moment très émouvant pour moi de découvrir leur rôle et leur existence et leur passage. Et avec elles, j'ai aussi appris l'existence du Paris noir et du rôle des femmes dans la négritude et aussi des échanges entre intellectuels américains et français à cette période. Donc c'est plusieurs fils que j'ai tirés petit à petit, d'abord en partant de Paulette et Jeanne Nardal et de leur salon à Clamart. Et puis petit à petit, j'ai appris l'existence de ce mouvement littéraire et panafricaniste à Paris dans les années 20.
Et pourtant, à la maison, chez vous, il y avait plein de bouquins, il y avait notamment les écrits de César.
Oui, il y avait les écrits de César, mais je crois que justement, c'est exactement ce que j'essayais d'écrire dans le premier article que j'ai consacré aux sœurs Nardal dans Libération et puis plus tard dans la bande dessinée, c'est que je crois qu'elles ont laissé très peu d'archives écrites, et donc du coup, je n'avais jamais lu d'écrits des sœurs Nardal, et j'avais jamais entendu parler de leur rôle.
À vos côtés, Étienne Achille. Bonjour, cher monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le fils de Louis Achille, qui était un cousin des sœurs Nardal, et vous proposez un merveilleux site internet pour valoriser l'histoire de votre père et de ses nombreuses archives, justement. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, Étienne Achille, d'avoir sous les yeux le scénario et la scénariste de cette petite bande dessinée consacrée aux sœurs Nardal, publiée par une jeune revue féministe ?
Je pense que ça dit beaucoup de choses. Ça dit d'abord qu'on est presque 100 ans après tout ça, et que malgré tout, 100 ans après, c'est de l'actualité chaude, comme je crois on dit dans les médias, à savoir de jeunes féministes, militantes, écrivent, portent ce message. Et ce que je suis ravi de voir aussi, c'est que la déferlante sort en juin, si je ne m'abuse, et en juillet, un mois après, un grand article de 8 pages dans M, le magazine du Monde du 16 juillet, écrit par Benoît Hopquin, parle du salon de Clamart, explique ce qu'était ce salon, rend compte de la diversité des voix qui s'y exprimaient, que ce soit des voix noires, évidemment, comme vous l'avez dit, des trois continents, de l'Afrique, des Amériques et de l'Europe, mais aussi des voix blanches, et c'est bien l'intérêt aussi de cette rencontre, qui n'était pas exclusive. Il était hors de question d'imaginer que se forger une conscience noire allait se limiter à ce cercle de gens qui avaient la peau, certes avec différentes nuances de noir, mais qui étaient tous noirs. Non, c'était justement la montée d'une conscience, la construction d'une conscience pour être avec les autres. Et je crois que dans l'article de Benoît Hopquin dans le magazine du Monde, il y a une anecdote qui est racontée par le journaliste qui dit que le Louis Achille, donc mon père, Louis Thomas Achille, traversant le restaurant La Coupole à Paris avec ses cousines Nardal, traversait en ayant conscience d'être regardé. Et c'était, au fond, la traduction en acte de cette conscience noire qui émergeait au sein de Montparnasse.
Conscience pour laquelle ont largement œuvré nos Jeanne et Paulette Nardal, les héroïnes de votre bande dessinée, Léa. Une bande dessinée lue également par notre invitée historienne Jennifer Boitin. Jennifer est avec nous en duplex depuis Berlin. Bonjour Jennifer.
Bonjour.
Alors vous êtes spécialiste de l'histoire coloniale française et des interactions entre race, genre et classe. Et vous avez beaucoup écrit sur les figures féminines noires en général et sur les sœurs Nardal en particulier. Un siècle après leur arrivée à Paris, est-ce que vous pensez que l'œuvre des sœurs Nardal est enfin considérée à sa juste mesure, Jennifer Boitin ?
À sa juste mesure, je ne sais pas, puisque je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre, ouais, à dire et à écrire sur elle. Mais cela m'a fait très très plaisir de voir une bande dessinée consacrée aux sœurs Nardal, et aussi de voir de plus en plus d'articles et le grand public qui en parle finalement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et d'assez extraordinaire qui me rend très heureuse en tant qu'historienne, en tout cas.
Alors, qu'est-ce qu'elle représente au fond de si particulier, Jeanne et Paulette Nardal ? En quoi elle se distingue d'un Césaire, d'un Senghor ou d'un Damas ?
Alors pour moi, elles sont un peu un fil conducteur à travers toute une série de revues et de journaux qui étaient publiés à Paris dans l'entre-deux-guerres. On les retrouve très tôt, par exemple, dans la Dépêche africaine. Mais encore avant, il y a une mademoiselle Jeanne Martiniquaise qui était une secrétaire adjointe à l'Union intercoloniale, qui est une union qui réunit des Maghrébins, des Vietnamiens, des Africains, des Antillais, dans une seule et même union pour essayer de parler déjà des droits des colonisés à l'époque. Et on va les retrouver ensuite, après la Dépêche africaine, dans la Revue du Monde Noir, qui ressort vraiment de ce salon de Clamart. Et ensuite, ça va continuer jusqu'à ce qu'en 1935, Paulette Nardal en particulier, et cela on le retrouve plutôt dans les archives de la police et de la sûreté, va commencer à vraiment s'engager sur des questions politiques autour de l'Éthiopie et de l'invasion italienne de Mussolini de l'Éthiopie, où elle va vraiment commencer à travailler non seulement avec le milieu un peu plus culturel et intellectuel qui était son propre jusqu'à ce moment-là, et de plus en plus avec des milieux politiques, y compris des unions anti-impérialistes de l'époque.
Alors justement, nous revenons sur cette entre-deux-guerres en continuant de tourner les pages de la revue La Déferlante et de cette petite bande dessinée consacrée aux sœurs Nardal.
Durant l'entre-deux-guerres, nos activités ont été étroitement surveillées par le ministère des colonies.
Note. Eboué Félix. Contrant Damas, Léon. Senghor, Léopold Sédar. C'est eux, la Revue du Monde Noir ?
Non, le rapport parle d'un certain docteur Sajous, un haïtien. Et évidemment de Paulette Nardal.
Et le type à côté de Paulette, on l'a dans nos fichiers ?
Césaire Aimé, à surveiller.
Ah, Aimé Césaire. J'ai enseigné les lettres dans le même lycée de jeunes filles que lui à mon retour à la Martinique en 1929, après mon mariage. Césaire deviendra le maire de Fort-de-France à partir de 1945 et obtiendra la départementalisation de la Martinique un an plus tard. Avec la parution du cahier d'un retour au pays natal en 1939, il est devenu le chantre de la négritude, ce courant qui a sous-tendu tant de mouvements d'émancipation noire. À Fort-de-France, une place a été baptisée Paulette Nardal. Mais Césaire ne nous a jamais rendu hommage publiquement.
Tu sais, un étudiant américain m'a écrit l'autre jour pour me poser des questions sur Senghor et ces messieurs de la négritude.
Ah ?
Je peux te citer ma réponse de mémoire. Césaire et Senghor ont repris les idées que nous avons brandies et les ont exprimées avec beaucoup plus d'étincelles. Nous n'étions que des femmes. On peut dire que nous leur avons pavé la route.
Nous n'étions que des femmes, mais quelles femmes ? Elles s'appellent Jeanne et Paulette Nardal et elles sont issues d'un milieu bourgeois antillais qui est celui dans lequel leur cousin, Louis Achille, a grandi aussi. Alors quel souvenir, Étienne Achille, vous qui êtes le fils de Louis Achille, votre père vous a-t-il transmis de cette jeunesse éduquée dans les vieilles colonies françaises ?
Un souvenir de bonheur absolu. Ce qui peut paraître paradoxal vu la force des combats qui ont été menés ensuite, un souvenir de bonheur absolu parce que ils étaient un, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas divisés, ils étaient eux-mêmes sans avoir au fond besoin d'avoir cette conscience d'être considéré comme un noir, même si dans la Martinique de l'époque les différences sociales et raciales étaient déjà très aiguës, évidemment, comme elles le sont d'ailleurs restées. Mais dans les jeunesses littéraires, dans les sorties au volcan emmenées par le père de mon père, Louis Achille aussi, qui a été le premier agrégé d'anglais noir, ces jeunes, ces adolescents, ces enfants puis ces adolescents partageaient un héritage culturel commun, des activités culturelles. Et c'est dans cette liqueur, en quelque sorte, puisqu'ils dégustaient cette jeunesse, que s'est forgée leur exigence littéraire, leur culture et leur besoin un jour de découvrir qu'au fond, on les considérait comme noirs et c'est ce qui est arrivé à Paris.
Une éducation exigeante, effectivement, qui passe forcément par la métropole, puisqu'il faut aller faire l'université à Paris, à partir de 1926, lycée Louis-le-Grand et ensuite la Sorbonne. Et grâce à vos précieuses archives sonores et familiales, nous découvrons la voix de votre père, Louis Achille. Il évoque son arrivée à Paris.
Les gens de couleur à Paris étaient encore, à l'époque, victimes de certains préjugés. surtout les préjugés assez superficiels de Parisiens qui, en voyant passer, par exemple, des femmes comme Paulette Nardal, eh bien, ou ses sœurs, ou d'autres étudiantes colorées de la Sorbonne, c'est vrai, oh la belle blonde. Il faut avouer qu'après la réussite de Josephine Baker, on les appelait Joséphine. C'était déjà un progrès, car Joséphine était adulée du public parisien. Mais il faut dire que le problème de l'identité de ces Noirs ne semble pas les avoir préoccupés. On avait le sentiment que nous étions très conscients de ce que nous représentions, que notre originalité antillaise était distincte de celle des Français de métropole, qu'elle n'avait qu'à se proposer pour se faire admirer, car en effet, elle était séduisante. Il faut ajouter aussi que la grâce et l'élégance de ces Martiniquaises, surtout au quartier latin, ont contribué à donner de cette initiative de la revue une idée flatteuse. En effet, il semble que le public parisien, pendant la Première Guerre mondiale, avait été habitué, avait découvert la couleur sous la forme des militaires. Antillais qui avait été mobilisé, comme tout Français, pour mourir à Verdun, éventuellement. Et si bien qu'en voyant arriver des femmes noires, on avait l'impression que les Parisiens découvraient que la négritude pouvait se porter au féminin. Et comme elles ne pouvaient pas manquer de frapper par leur distinction, leur beauté, leur grâce, leur intelligence, eh bien, une attitude très favorable s'est développée autour d'elles, si bien que le sentiment de race a été dépourvu d'agressivité et qu'au contraire, il se portait avec fierté et avec le sentiment aussi que, après avoir beaucoup bénéficié de la culture occidentale, il lui apportait quelque chose qu'elle ne possédait pas encore. Et ceci dans l'espoir de contribuer à bâtir cette culture mondiale, multicolore, qui est celle dans laquelle nous vivons et qui ne cesse de se développer.
Témoignage inédit, diffusé pour la première fois sur RFI, la voix de Louis Achille, l'un des contributeurs de la revue du Monde Noir, fondée par ses cousines Paulette et Jeanne Nardal en 1931. Jennifer Boitin, quelle archive! Revenons, si vous le voulez bien, sur le parcours des sœurs Nardal. Elles sont venues comme leur cousin Louis étudier à Paris. Et bien avant de créer leur propre revue, elles vont écrire dans des journaux comme Le Cri des Nègres, par exemple. Alors comment vous expliquer que Paulette Nardal, jeune bourgeoise martiniquaise, se retrouve aux côtés des travailleurs nègres, comme on les qualifiait à l'époque, et communistes en provenance d'Afrique?
Alors je pense que ça a été un développement assez progressif pour elle. Au départ, quand elle publie des articles, par exemple pour la Dépêche africaine, ça c'est autour de 1928-1929, elle est plutôt en train d'écrire des articles très culturels sur, par exemple, Augusta Savage, qui est une sculptrice afro-américaine, ou sinon sur un acteur soudanais qui s'appelait Benglia. Ou encore de la fiction, par exemple Exil, qui parle d'Elisa, qui est une jeune, plutôt âgée, une Antillaise qui arrive et qui renvoie de l'argent. Elle est, comme on dirait maintenant, technicienne des surfaces, et elle essaye de survivre à Paris. Mais à travers ces pastiches culturelles et du quotidien, elle produit une autre forme du savoir autour de ce que ça représente que d'être Antillaise à Paris. Et petit à petit, ça va se développer en ce qu'elle va appeler elle-même une conscience de race. Alors, sa sœur Jeanne, était beaucoup plus politisée dès le
départ. Voilà, elle est beaucoup plus impliquée politiquement. J'aimerais que l'on revienne sur son fameux texte qui a été évoqué dans la bande dessinée « L'Internationale Noire » publiée en 1928.
Oui, alors il y en a deux. Il y a « Poupée exotique », qui est le texte dans lequel elle va parler aussi en 1928 de Joséphine Baker et de ce qu'elle représente, parce que tout le monde fait très attention justement de ce regard qui est porté sur Nardelle, elles en sont très conscientes. Et Jane en parle un peu dans cet article, mais l'internationalisme noir, ça devient vraiment le premier article à parler de l'importance d'une connectivité entre les peuples noirs en Afrique, dans les Amériques, que ce soit la Caraïbe ou les États-Unis. Et c'est là, pour la première fois, qu'on commence vraiment à articuler cette importance de s'unir autour d'un passé de colonisation et d'esclavage qui est commun à toutes ces régions du monde.
Noir en cause, dans ta chose, avant de se mettre au vieux, j'apprends la géographie, la Chine et la Manchurie. Les frontières, les rivières, le fleuve jaune et le fleuve bleu. Y'a même l'amour, c'est curieux, car on se l'empire du milieu. C'est moi qui suis sa petite, son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vive, je suis charmante, comme un petit oiseau qui chante. Il m'appelle sa petite bourgeoise, sa tanque qui, sa tanque qui, sa tanque moise. D'autres lui font les doux yeux, mais c'est moi qui l'aime le mieux.
Vous écoutez RFI, la marche du monde, Valérie Niglon.
Si les sœurs Nardal dénoncent l'exotisme avec lequel, par exemple, le milieu parisien regarde Joséphine Baker, de quelle façon les policiers, à l'époque, regardent les sœurs Nardal? Parce qu'on l'a dit au début de cette émission, ces deux frangines-là, elles ont un sacré culot. Elles vivent seules, sans hommes. Elles reçoivent à Clamart, dans leur salon, un cercle d'amis qui est quand même très masculin. Et puis, elles écrivent dans les revues. Qu'est-ce que vous avez pu lire dans les rapports de police? Quel regard porte la police sur Jeanne et Paulette?
Alors souvent, ce sont des noms qui apparaissent dans les rapports à côté d'autres noms. Par exemple, la manière dont je me suis rendu compte que Paulette Nardal participait à certaines des réunions de l'Union des travailleurs nègres, qui était une des grandes organisations anti-impérialistes de l'époque, notamment Tiémoko Garankouyaté était à la tête de cette union pendant une période, en 1935 justement. Et on va la retrouver par exemple dans les bureaux de l'Union des travailleurs nègres en train d'écrire des adresses sur des enveloppes pour aider à l'envoi de leur journal qui contient des articles justement qui dénoncent ce que Mussolini est en train de faire en Afrique, en Éthiopie.
En Éthiopie.
Donc, voilà, donc on va les retrouver dans ces situations-là, puis après dans des réunions, mais on va aussi les retrouver dès qu'il y a des danses, par exemple, ou des bals, on va retrouver leur nom aussi associé à ces bals. Donc, il y avait, par exemple, tout un pan du travail des organisations anti-impérialistes qui était d'essayer de séduire culturellement les Français qui étaient fascinés par les bals coloniaux à l'époque, les Parisiens en particulier. Donc, on organisait de grands bals. On invitait plein de monde, mais vraiment de toutes les origines différentes. Ça se faisait dans le quartier latin, ça se faisait aussi dans des quartiers beaucoup plus ouvriers à l'époque. Et ensuite, au milieu du bal nègre, il y aurait quelqu'un allait se mettre debout pour essayer d'expliquer la politique, l'importance de l'union des races, l'importance de la classe ouvrière internationale qui comprendrait aussi un pan pour les Antillais, les Africains et ainsi de suite. Et elles sont présentes. Et c'est comme ça qu'on voit qu'elles commencent à être associées de plus en plus avec un petit peu ce danger de potentiel parce que justement, elles représentent une connexion entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise.
Paulette et Jeanne Nardal, fichées donc par la police entre deux guerres à Paris. Que pensent-elles, Paulette et Jeanne, justement de ces années parisiennes? C'est un petit peu ce que Louis Achille, votre père, a voulu savoir. Étienne, en enregistrant ses cousines en 73 à la Martinique, et avant d'écouter cet enregistrement extraordinaire, est-ce que Paulette et Jeanne, elles avaient le projet d'écrire leur mémoire?
Hélas, non. C'est une impossibilité qui probablement tient à la difficulté de revenir sur leur propre vie. Je pense qu'elles ont préféré l'une comme l'autre, en tout cas Paulette, c'est certain, agir dans la société, s'engager, lorsque Paulette est rentrée à la Martinique, tant sur la cause féministe que sur la cause sociale de la situation des, notamment des femmes à la Martinique. Et puis, un de ses grands engagements, c'est la musique. Et particulièrement dans la musique, les Negro Spirituals, qui sont un trait d'union de plus entre Louis Thomas Achille et Paulette Nardal, puisque Paulette Nardal crée sa chorale Joie de chanter à la Martinique et que Louis Thomas Achille a créé dès 1948 à Lyon, où il avait été nommé professeur, une chorale de Negro Spirituals qui a duré 40 ans et qui a porté en quelque sorte cette version-là de la négritude, c'est-à-dire partie de la souffrance et de l'espoir de libération des esclaves américains. Et au fond, c'est assez cohérent avec l'expérience américaine, le choix de l'épreuve américaine que Louis Thomas Achille a voulu faire pendant 10 ans en allant enseigner tant à Howard University, la Harvard noire, qu'à l'Université de l'Atlanta. Et il est parti aux États-Unis après des échanges au Salon de Clamart, chez les Nardal, avec Alan Locke, qui est donc le père, en quelque sorte, de la Harlem Renaissance, et avec son livre The New Negro, en 1925, et après des discussions avec Augusta Savage, et des discussions avec sa cousine André Nardal, que Léa avait raison de mentionner, il ne faut pas oublier André, et d'ailleurs les 5 autres sœurs Nardal, puisque cette fratrie, j'ose même pas dire fratrie, mais sororerie, peut-être, a donné Alice, qui a été la mère de Christiane Dapierre, la première cantatrice noire de l'Opéra de Paris, Lucie, professeure qui accueillera De Gaulle au lycée Schœlcher, Cécile, dont une petite fille a été ministre en Norvège il y a 10 années, et donc cette SMH de personnalités qui, à l'instar des cousines Nardal, de Louis Thomas Achille, ont porté très haut l'exigence de devenir des êtres complets.
Et ce qui est très intéressant, c'est que votre père, Louis Achille, a développé une très grande conscience de la valeur de ses cousines et de leur engagement. Et en 1973, donc, il mène ses entretiens. Vous nous en offrez un extrait. On écoute Louis Achille, votre père, avec sa cousine Paulette Nardal.
Paulette, donc, étant angliciste, je crois que tu préparais ce qui s'appelle le certificat d'aptitude à l'enseignement de l'anglais dans les lycées et collèges. J'ai commencé tout simplement par la case de l'oncle Tom. Mais au point de vue racial et social, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Et je trouve tout naturel de l'avoir choisi. Elle était la première, hein, à introduire cette notion de sympathie pour les noirs. Peut-être un peu paternaliste, mais enfin, tout de même, il fallait bien une pionnière, n'est-ce pas?
Où se trouve ce document, cette étude? Est-ce qu'un exemplaire en a été déposé à la Sorbonne?
La case de l'emprunteur, je ne sais plus. Je ne sais pas, il faudrait voir.
Tu l'avais fait, il était manuscrit.
Il était manuscrit. 90 pages.
C'est un mémoire qui, du type du diplôme, de celui que l'on rédigeait pour le diplôme d'études supérieures.
C'est ça, le diplôme d'études supérieures. C'est pourquoi c'est quand je mets, en fait.
De sorte que c'est probablement la première étude consacrée sans doute par l'intermédiaire d'un écrivain blanc au problème noir.
Absolument. Il ne serait jamais venu à l'idée de choisir un autre auteur, un auteur en plein, et c'est pas mal, Dieu sait, hein, si on faisait des choses intéressantes, mais en fait.
La voix de Paulette Nardal sur RFI dans la Marche du Monde, grâce aux archives familiales de la famille Achille. C'est Louis Achille qui interview à l'époque, en 1973, sa cousine Paulette Nardal. Elle se passionne pour la question de la condition noire dès l'université, et c'est ce que nous comprenons dans cette archive. Et quand elle écrit son premier texte fondamental, L'éveil de la conscience de race, publié en 1932, vous l'avez rappelé, Jennifer Boitin, est-ce que, à ce moment-là, vous pourriez dire, en tant qu'historienne, que Paulette Nardal pense déjà la négritude ?
Pour moi, la réponse est oui. parce qu'elle dit très clairement que c'est en partie le fait d'être une femme noire à Paris qui fait qu'elle arrive à cet éveil de la conscience de race. Elle parle dans cet article qui est magnifique d'un autre article qui a été écrit par une femme qui s'appelle Robert Hort qui est morte très jeune et qui parle du problème de l'intimité de la femme noire à Paris, de la manière dont elles sont invitées chez les gens, mais on ne les voit jamais vraiment comme des êtres humains, comme des étudiants, comme des autres, comme des femmes, comme des autres. Et Paulette Nardal reprend un petit peu cette idée-là et elle en fait cette idée de besoin de solidarité entre les femmes noires qui, pour elle, va donner naissance à une éveil de conscience de la race noire chez les femmes avant chez les hommes. Donc elle dit de manière très explicite, et ceci en 1932, que cet éveil de la conscience de la race noire qui va être repris par les penseurs de la négritude a ses origines avec ces femmes noires du Paris des années 30.
Je me tourne vers la jeune génération, vers Léa Mormin-Chauvac. Est-ce que ça résonne en vous, à la fois les propos de Paulette et les explications de Jennifer Boitin, vous qui êtes journaliste, féministe, antillaise, lorsque Paulette Nardal, il y a presque un siècle, exprime sa conscience de race comme un supplice spécifiquement féminin et comme un mouvement, au fond, qui doit être porté par les femmes?
Bien sûr, ça résonne en moi, ça résonne notamment par son actualité, comme Étienne Achille l'a souligné.
C'est-à-dire ?
Je trouve que son propos est extrêmement moderne et qui pourrait toujours être appliqué maintenant. Je crois qu'on peut... J'avais écrit à l'époque que sa pensée était féministe et intersectionnelle avant l'heure, au sens où elle prenait en compte les enjeux de race, de classe et de genre. Je ne sais pas si j'utiliserai une formule aussi définitive aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme on l'a déjà souligné, 100 ans après, ce qu'exprimait Paulette Nardal, à savoir la difficulté de se trouver à l'intersection de ces trois conditions qui peuvent parfois causer des discriminations, est différente de celle d'être simplement ouvrier, simplement homme ou simplement noir. Et je trouve que dans sa manière de l'exprimer, de le dire très simplement, mais de façon récurrente, c'est quelque chose qui revient vraiment souvent dans ses écrits, dans le peu d'écrits qui reste de Paulette Nardal. Je la trouve vraiment moderne et c'est ça qui me parle, oui.
Est-ce que c'est pour ça, Léa, que vous choisissez d'écrire et de vulgariser, au joli sens du terme, la pensée des sœurs Nardal dans une bande dessinée, dans une revue féministe? Vous adressez quand même majoritairement à des jeunes femmes du XXIe siècle, ultra connectées, qui ne sont pas forcément concernées par ces questions.
En fait, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont écrit avant moi, des jeunes afroféministes qui ont écrit avant moi sur Paulette et Jean Nardal et leurs autres sœurs. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été fait avant le mien. Je pense notamment à des écrits sur le site d'Africulture, mais aussi à beaucoup de blogueuses qui ont fait ce travail avant. Et donc, je m'inscris dans leur sillage et je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est simplement de rappeler l'importance, l'existence et la participation des femmes noires à la pensée intellectuelle, mais pas seulement. Et donc, je crois que c'est tout simplement ce que j'essaie de faire. Bon,
peut-être pas si simplement. Ce sont des outils pour penser aujourd'hui sa condition de femme noire féministe, par exemple.
En tout cas, savoir qu'on a eu des prédécesseuses et que le champ des possibles est large et ouvert, oui, oui, très certainement.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est, on l'a compris, hein, Jennifer Boitin l'a souligné, ce sont des femmes qui font aussi le lien, et c'est peut-être aussi leur différence avec d'autres penseurs de la négritude. Cette dimension donc panafricaine, afro-américaine, francophone, mais aussi anglophone de la revue fondée par les sœurs Nardal, la fameuse revue du Monde Noir, c'était en 1931. Écoutez comment Louis Achille, cousin des sœurs Nardal, décrit l'implication du Monde Noir dans la création même de la revue.
Effectivement, quel que soit le petit nombre de ses collaborateurs, la République d'Haïti, la première République libre du Nouveau Monde, a donné le coup d'envoi, si l'on peut dire, à cette revue, avec le docteur Sajous, qui était parisien à l'époque, d'origine haïtienne, même s'il a poursuivi sa carrière en Afrique. Mais le docteur Sajous a été le rédacteur en chef de la revue, dont Paulette Nardal n'était que la secrétaire générale, mais évidemment l'inspiratrice, on ose dire l'âme, de la revue du Monde Noir. Cette première des sept filles de Paul et Louise Nardal fut secondée par la dernière des sept filles, André Nardal, qui, comme elle a été dit, poursuivait des études de musique et en effet traita de ces questions dans la revue.
La revue du Monde Noir à laquelle collabore Louis Achille, votre père, Étienne. Quels sont ces sujets spécifiques à votre père lorsqu'il signe ses articles?
Louis Achille s'est positionné un peu comme d'ailleurs sa cousine André sur les enjeux culturels, notamment artistiques, estimant que le corpus de création nègre, comme on disait à l'époque, hein, puisqu'il faut bien préciser ça maintenant à chaque fois qu'on utilise ce terme, que ce corpus avait une spécificité. Et d'ailleurs, il est frappant de réaliser qu'au moment de la revue du Monde Noir, le début des années 30, il y a déjà une quinzaine d'années, que cet art, notamment venu d'Afrique, bouleverse la création contemporaine, évidemment avec la figure de proue en quelque sorte du cubisme qu'est Picasso, mais oblige à un autre regard, à rompre avec l'académisme et au fond à un regard très politique. C'est-à-dire que c'est pas forcément une révolution copernicienne ni Galilée, mais c'est en revanche un autre référentiel esthétique qui fait irruption dans la création artistique du monde occidental, on va dire. Et au fond, c'est cet embryon-là qu'ensuite les sœurs Nardal, dans la revue du Monde Noir, cherchent à contextualiser. Et notre père, Louis-Thomas Achille, lui a écrit notamment sur la création plastique de façon à rendre tangible la spécificité. Et au fond, il est, par la pratique de la musique noire, il est en parfaite cohérence avec ce qu'il a fait au sein de la revue du Monde Noir.
Il incarne bien effectivement tout l'esprit de la revue du Monde Noir, puisqu'il est fluent English, comme on dirait aujourd'hui, hein, il est parfaitement bilingue. Et dites-moi, ceux qui écrivent dans la revue du Monde Noir, est-ce que ce sont ceux qui fréquentent le salon des sœurs Nardal?
Oui, tout à fait. C'est là aussi que on voit la grande force du salon, c'est que au-delà des conversations du dimanche à l'heure du thé, comme on le dit, il y avait de la production littéraire. Et c'est ça qu'on peut considérer comme un héritage fort des sœurs Nardal, car il n'y a pas eu évidemment de captation des entretiens à l'intérieur du salon, mais en revanche, il y a la revue du Monde Noir rééditée en 92 et qui sera rééditée en 2022.
Jennifer Boitin, j'ai une question, si j'ai bien compris. Césaire, Senghor et Damas sont au salon des sœurs Nardal, mais ils n'écrivent pas dans la revue du Monde Noir. Pourquoi?
Alors, une théorie, c'est que ils étaient
alors,
boursiers.
Votre théorie, dites-moi.
Non, pas seulement. Ils étaient boursiers.
Oui.
Ce qui veut dire que tout ce qui était politique pouvait être dangereux pour eux à l'époque parce qu'ils risquaient de perdre leur bourse.
Mmh.
Et on a vu ça autour de leur journal, celui qui a lancé le mot négritude, l'étudiant noir, qui n'a pas duré pendant très longtemps. En plus, on n'arrive pas à retrouver tous les numéros. On sait qu'il y en a d'autres qui se baladent dans la nature, mais on les a pas tous. Mais on sait qu'il y a eu des discussions au niveau du ministère des colonies sur si oui ou non ils allaient perdre leur bourse s'ils participaient à ce genre de mouvement politique. Donc il est possible que ça les ait influencés. Possible aussi qui n'est pas encore tout à fait formulé leur politique, qui va vraiment en 1935 donc venir avec le premier numéro de l'étudiant noir, auquel d'ailleurs Paulette Nardal participe aussi, puisqu'elle y rédige aussi et publie un article.
Absolument. Étienne Achille, est-ce que votre père Louis Achille considérait, et lui l'entier, hein, est-ce qu'il considérait que Aimé Césaire, hein, le Martiniquais Aimé Césaire, l'auteur du cahier du retour au pays natal, a fait de l'ombre à ses cousines, aux sœurs Nardal?
Je crois que ce que vous avez mis en ombre tout à l'heure au début de l'émission montre bien, en tout cas, ce que les sœurs Nardal disaient elles-mêmes de cette question. Ce qui est clair, c'est que les parcours des unes, les sœurs Nardal, et de l'autre, Aimé Césaire, ont divergé. Ça, c'est une évidence. Aimé Césaire est devenu l'écrivain, dramaturge, poète et homme politique que l'on connaît. Paulette Nardal, pour différentes raisons, notamment son accident quand son bateau a été torpillé pendant la guerre, a dû se résoudre à rentrer à la Martinique et n'a plus pu déployer ce qui, évidemment, aurait été sans doute un parcours et une contribution beaucoup plus forte que ce qu'elle a laissé aujourd'hui. Néanmoins, je pense qu'il faut notamment citer les travaux de Brent Edwards, qui est un universitaire américain, qui travaille beaucoup sur les écrits de Paulette Nardal et qui prépare actuellement une intégrale, autant qu'elle puisse l'être, des écrits de Paulette, de façon à ce que, là encore, on puisse reconstruire la progression de sa pensée. Et ça, c'est aussi une chose importante qui arrivera en 2022 avec la réédition de la Revue du Monde Noir. Celle de 1992 avait d'ailleurs été préfacée par Louis-Thomas Achille.
Que de bonnes nouvelles, on va tous se mettre à l'anglais puisque les livres de Jennifer Boitin sont pour l'instant encore en anglais et on attend donc beaucoup de traductions en français. Et puis j'ai envie aussi de me tourner vers vous, Léa, parce qu'il y a toute la question de la disparition des archives. Et d'ailleurs, Léa Mormin-Chevac, vous avez choisi dans la revue La Déferlante d'ouvrir votre bande dessinée sur les sœurs Nardal par une scène d'incendie. Pourquoi raconter aux auditeurs ?
On a décidé d'ouvrir par une scène d'incendie parce que la maison des sœurs a été donc incendiée dans les années 50, il me semble. Et alors, on ne sait pas si c'est un incendie criminel ou si c'était une fraude à l'assurance, ce n'est pas très précis. En tout cas, c'était une manière de représenter le peu d'archives. C'est comme ça que j'ai voulu représenter ça. C'est aussi un travail avec Raphaël Macaron, l'illustratrice, et qui permettait de très rapidement faire entrer le lecteur, l'électrice, dans cette idée que, en fait, il y a resté très très peu d'écrits et que c'était en partie pour ça, sans doute, qu'elles avaient été, comme on dit maintenant, invisibilisées. Voilà, donc c'était un moyen visuel de raconter cette histoire.
Et de commencer par l'invisibilité, justement, pour aller vers la visibilité.
Oui, tout à fait.
C'est
oui,
ça que vous avez voulu faire. Des archives donc sonores, hein, grâce au travail des enfants de Louis Achille, sonores, écrites, chantées, bientôt numérisées, mises à dispo sur votre site, consacré à votre père Louis Achille, avec des photos d'époque des sœurs Nardal, entre autres, qui sont très très belles. Et puis, moi, je ne résiste pas pour conclure cette émission à faire un clin d'œil au premier congrès des artistes et écrivains noirs qui s'est déroulé il y a tout juste 65 ans à Paris, c'était le 19 septembre 1956, où votre père Étienne Achille, donc Louis Achille, a fait une belle intervention sur les négros spiritueuses en présentant sa chorale, le Park Glue Club, en français et en anglais.
Le Park Glue Club est une chorale dirigée par l'auteur de ce rapport qui, du fait de son expérience en milieu américain, a pu transmettre oralement et de façon directe et j'espère pas trop infidèle la tradition des Negro Spirituals.
I will walk on my own legs till kingdom come. I will walk on my own legs till kingdom come. I will walk on my own legs till my brother shakes my hand. I will walk on my own legs till kingdom come.
Étienne Achille, les sœurs Nardal, est-ce que vous pensez qu'elles étaient présentes au premier congrès des écrivains et artistes noirs ? Est-ce qu'elles auraient écouté votre père Louis Achille chanter ?
En tout cas, elles n'étaient pas physiquement présentes. Hélas, je pense qu'elles auraient beaucoup aimé y être parce qu'elles y auraient eu leur place. Notre père, en quelque sorte, les a représentées. Et je crois que c'est important de souligner que, pour rebondir sur la fameuse année 1956, où les archives des Nardal brûlent à Fort-de-France, 1956, c'est le boycott des bus à Montgomery, en Alabama. Et c'est précisément en hommage à Rosa Parks que Louis-Thomas Achille, à Lyon, compose le, à ce jour, probablement seul spiritual composé en France, qui donc dit « Je marcherai sur mes deux jambes jusqu'à l'avènement du royaume ». Et le spiritual raconte « Va t'asseoir à l'arrière du bus ». On sait que Rosa Parks, ce jour-là, a refusé et qu'elle a aussi changé l'histoire en allant s'asseoir devant, à l'avant du bus. Et je pense que c'est un beau symbole de une femme qui se bat. Les sœurs Nardal, qui se sont dressées 25 ans avant, qui se sont battues, ce message qui est « on avance, on ne gagne pas toujours, mais on gagne ». Et je trouve que, comme on le disait au début de l'émission, quelques cent ans après, la densité de ce message reste encore à creuser, à exploiter et probablement à découvrir, puisque, comme le rappelait Jennifer Boitin, il y a encore des archives qui ne sont pas exploitées et de notre côté, nous en avons qui ne sont pas exploitées. Et je trouve que c'est un assez beau son qu'on entend là pour que ce message montre son actualité et la vivacité de ce qu'était ce congrès de 56, qui est quand même un événement extraordinaire, lui aussi très surveillé par la police en pleine guerre froide.
Merci à vous, Étienne Achille, Léa Mormin-Chauvac et puis bien sûr Jennifer Boitin. Ainsi s'achève la déferlante de la négritude, un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Michael Goncalves, avec la complicité de Simon Bouil-Baudin. Un grand merci à vous, Étienne Achille, à vos frères, à vos sœurs, pour avoir partagé vos précieuses archives, ainsi qu'à l'historienne Jennifer Boitin, dont le livre « Colonial Metropolis », disponible en anglais, sera bientôt traduit en français, je l'espère, et à la journaliste scénariste Léa Mormin-Chauvac, ainsi qu'à la revue « La Déferlante », dont le numéro 3 vient de sortir. Et en attendant, vous nous écrivez à marche.monde@rfi.fr pour nous donner les prénoms des deux sœurs Nardal, afin que nous puissions vous offrir un exemplaire de la revue numéro 2 de La Déferlante, où vous pourrez découvrir la bande dessinée en question. Exprimez-vous sur nos réseaux sociaux, podcastez cette émission, c'est la vôtre. Religion du